l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité aujourd'hui est Ariane Bois, auteure du livre « Éteindre le soleil », c'est aux éditions Plomb. Son 8e ouvrage pour cette journaliste, grand reporter et critique littéraire d'origine juive et qui a écrit une trilogie littéraire « Le gardien de nos frères ». Ariane Bois, bonjour.
Bonjour.
Alors, « Éteindre le soleil », un récit très personnel après celui qui traite du suicide de votre frère. Dans ce récit, vous explorez la relation avec votre père adoré, avec qui vous avez toujours eu une relation fusionnelle, jusqu'à l'arrivée d'Edith, sa nouvelle compagne. Au moment de son arrivée dans votre famille, vous aviez la volonté de voir votre père heureux. Donc, l'accueil a été plutôt chaleureux de votre part. À quel moment, on va dire, c'est du fait d'Edith, vous avez commencé à entrevoir une relation toxique entre cette femme et votre père?
Je crois que ça a commencé très très tôt, en fait, puisque à la première rencontre, elle s'est mise en position de rivale en m'expliquant qu'elle connaissait mon père depuis plus longtemps que moi, puisqu'elle l'avait connu lorsqu'ils étaient tous les deux adolescents. Donc je crois que dès la première rencontre, les jeux étaient déjà pipés entre nous, et puis très vite, on a eu les premières critiques, les premières petites phrases négatives. Vous savez, en fait, l'emprise, ça marche toujours avec les mêmes ficelles, en fait. Hein. Après la séduction, il y a toujours la victimisation, l'intimidation, la culpabilisation. Et puis finalement, j'ai vécu ça très très vite, mais par contre, on met beaucoup de temps à comprendre le phénomène et à l'accepter.
Elle n'a jamais eu, on va dire, d'opération séduction envers vous et votre famille à aucun moment. Ça a été dur depuis le début.
Ça a été assez dur depuis le début. Je crois que à la première rencontre, elle a essayé d'un peu de museler ses sentiments, mais on le sentait déjà. Et je crois que la lune de miel a été réservée à mon père, mais qu'elle a cherché très vite à nous séparer, à l'isoler, à le contrôler et finalement à le rendre dépendant.
Alors justement, la volonté de cette intrigante de posséder votre père totalement, hein, on parle vraiment de possession. À quel moment vous avez senti que vous alliez perdre votre père et que lui était totalement sous emprise?
Je crois que c'est quand elle a décidé que le portable était interdit pour lui. Donc, c'est quelque chose d'assez incroyable chez un homme d'un certain âge, mais elle a réussi à le persuader que avoir un portable serait vraiment un fil à la patte. Et donc, du jour au lendemain, on n'a plus pu communiquer de manière directe. Il fallait passer, comme mon père vivait chez elle, par le téléphone fixe de chez elle. Et donc, elle répondait ou ne répondait pas à son gré. Ça, je crois que c'était vraiment très important. Et puis, vous savez, dans l'emprise, il y a un phénomène de surveillance. Et là, c'était la surveillance des horaires. C'est-à-dire que mon père, qui était un homme, un personnage de roman, un être extrêmement libre et aventurier, avait tout d'un coup des horaires à respecter, à surveiller. Et donc, si jamais il était en retard d'un quart d'heure, eh bien, tout de suite, il y avait des répercussions. Donc, en fait, l'emprise se manifeste rapidement, c'est vraiment une prédation psychologique. Il s'agit de posséder l'autre, de l'accaparer, de vampiriser toute son énergie. Et donc, on a vu toutes ces ficelles qui se sont mises en place, mais le piège ne s'est finalement resserré, ne s'est finalement obtenu que quand mon père est tombé malade.
Justement, alors, cette maladie que votre père a développée, une leucémie, vous pensez, vous, maintenant, avec le recul, qu'il y a eu une incidence de cet enfermement, de cet embrigadement de son esprit, tout du moins, avant même, on va dire, l'enfermement physique?
Je n'ose pas le penser parce que ce serait vraiment absolument épouvantable, mais je pense que c'était un homme volé à lui-même et volé aux siens. Et moi, j'ai voulu décrire à la fois ce mécanisme, mais je n'ai pas voulu qu'elle vole le texte, c'est-à-dire que c'est un essai, un récit sur cette relation déséquilibrée et agressive, mais c'est aussi et surtout un hymne à l'amour filial, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mon père était vraiment un homme assez exceptionnel. Chanel qui ressemblait à mon temps et qui sillonnait le monde, qui soignait les autres puisqu'il était médecin au sein de Médecins du Monde. Et donc j'ai voulu lui rendre hommage et montrer cette relation que nous possédions l'un envers l'autre. C'était un homme solaire en effet.
Vous avez fait preuve de résilience pour garder cette relation intacte, le souvenir de votre père intact, cette chaleur, ce charisme que vous décrivez si bien dans votre ouvrage. Vous avez dû faire preuve de résilience envers cette femme qui vous a volé les derniers instants de vie de votre père.
Oui, j'ai dû beaucoup prendre sur moi. Et d'ailleurs, 10 ans plus tard, on commence juste à comprendre comment on peut aller aussi loin. Parce que finalement, l'emprise chez les victimes et leurs proches, ça se traduit par, dans un premier temps, la sidération, je dirais, par le déni. On pense que la personne a simplement un mauvais caractère, qu'il faut être plus accommodant, que peut-être son comportement est finalement de notre faute. En fait, la victime a l'impression que c'est de sa faute. C'est ça ce qui est absolument incroyable dans l'emprise. Et puis il y a aussi un effet, vous savez, syndrome de Stockholm. On se oui. dit que finalement on a besoin de cette personne pour vivre. Notre famille en fait s'est retrouvée dans un piège, dans un espèce d'embris-griot. On avait perdu confiance en nous, dans nos ressentis, nos intuitions. Et c'est ça ce que je voulais montrer, c'est que l'emprise, ça ne touche pas seulement une personne, mais ça touche une famille. C'est un système mortifère, c'est un système totalitaire. Et il m'a fallu 10 ans pour écrire ce texte, parce que j'ai mis 10 ans à comprendre cette emprise et à me dire, mais pourquoi tu n'as pas réagi plus tôt? Il y a eu de la violence morale, mais aussi de la violence physique envers moi. Et pourquoi n'ai-je pas réagi? Eh bien, parce que j'étais sidérée, complètement incapable de penser en dehors de l'emprise. Finalement, les pervers narcissiques, les manipulatrices, comme c'était le cas ici, eh ben elles vous ôtent la faculté de penser. Et donc, il a fallu vraiment longtemps pour essayer de retrouver et de comprendre comment le piège se crée, pourquoi il se referme et que peut faire finalement l'entourage dans ces cas-là.
Alors l'entourage, justement, votre vie de famille, vous avez 4 enfants, c'est cela ?
5 enfants.
5 enfants, oui, c'est vrai qu'il y avait la grossesse du petit dernier dans le récit. Aujourd'hui, c'est quelque chose que vous abordez avec vos enfants, où c'est devenu pas un secret de famille, mais c'est devenu une chape, quelque chose de lourd dont vous parlez pas, justement, avec cet effet de résilience, ou c'est quelque chose dont vous parlez librement ?
Alors écoutez, ils viennent de lire le livre, parce qu'ils ne lisent pas mes livres avant qu'ils ne soient publiés, donc ils viennent juste de le lire, de le découvrir. Les réactions étaient très différentes suivant les âges. Certains étaient déjà grands, puisque c'était des grands adolescents, mais ma fille, par exemple, n'avait que 6 ans, donc elle était vraiment petite, et donc elle n'a pas du tout suivi, compris, et puis on a essayé, j'ai essayé de les protéger au maximum de cette situation. Donc ils ont découvert leur grand-père sous un autre jour, ils ont découvert notre lien et la vie de cet homme étonnant et aventurier à ses heures. Et puis, ils ont découvert effectivement ce qui avait pu se passer dans notre famille, ce dont on a essayé de les protéger. Vous savez, on réfléchit toujours avec une logique cartésienne, linéaire. Et en fait, l'emprise, ça échappe à ça. Ça se joue dans l'ombre. C'est toujours à l'oral. Finalement, c'est comme vous savez, le thème de la grenouille qui est dans une casserole, ça se réchauffe, elle s'adapte et puis tout d'un coup, quand elle veut sauter, ça brûle et elle meurt. C'est vraiment cette image-là que j'avais en tête. Donc j'ai effectivement écrit ce livre d'abord pour mes enfants, pour leur faire comprendre qui était leur grand-père et puis aussi pour toutes les lectrices et les lecteurs que je rencontre en ce moment qui me disent « Mais moi, ça m'est arrivé avec ma belle-sœur, avec ma belle-fille, avec ma belle-mère. » Finalement, l'emprise au féminin, eh ben, on sait que ça existe, mais c'est véritablement un tabou. On n'en parle pas parce que les hommes, ils sont censés représenter le sexe fort. Donc, quand ils sont pris dans une relation déséquilibrée et aussi abusive, eh ben, ils n'osent pas l'évoquer. Alors parfois ils ont le courage de s'en aller, mais parfois ils ne l'ont pas. Donc la résilience, oui, ça passe par une prise de conscience, ça passe par souvent quitter la relation, parfois même porter plainte. La nouveauté maintenant, c'est qu'on a un arsenal juridique, on a des associations, on a un numéro national d'appel, donc on peut agir. J'ai aussi écrit ce livre pour que toutes les victimes puissent un jour agir et réagir.
Ce livre se termine, alors on va pas donner la fin, mais ce livre se termine par la triste image de cette femme seule, aigrie, qui a perdu elle aussi l'amour de sa vie, et on sent qu'elle porte ce deuil. Pour vous, c'était une fin acceptable de savoir que cette femme est seule face à cette... ce tourment de la vie qu'elle a elle-même créé.
Je pense que les manipulatrices, les perverses narcissiques ne reconnaissent jamais ce qu'elles ont fait, donc elles ne sont pas du tout dans une logique de pardon ou de main tendue vers l'autre. Je n'ai plus aucune nouvelle d'elles après ces 10 ans et le décès de mon père. Je pense que oui, on récolte sans doute ce que l'on a semé, mais que c'est un processus vraiment très particulier et que donc la personne a l'impression qu'elle agit de manière tout à fait normale, alors qu'en fait on est à la frontière de la folie. C'est en fait véritablement un procédé psychologique de prédation et qui est donc très proche de la folie, puisque c'est une volonté de démolir l'homme pour ce qu'il a et pour ce qu'il est. Donc je pense que le pardon ne peut s'obtenir que quand on le demande, et là personne n'a rien demandé.
Une dernière question, Ariane Bois. Éteindre le soleil, c'est un roman d'amour? Avant tout.
C'est tout à fait un roman d'amour. C'est tout à fait un roman d'amour. Vous avez raison. Un amour filial. Nos pères sont nos premiers regards masculins. Ils déterminent toute notre vie amoureuse. Mon père, j'ai eu cette chance, avait un regard extrêmement bienveillant sur moi. Et donc, il m'a accompagnée et je l'ai accompagnée jusqu'à son dernier souffle. Et je crois que cet amour-là, il ne meurt jamais. Et l'amour des pères nous construit au quotidien et nous accompagne jusqu'à la fin de notre vie.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Ariane Bois. Donc, je rappelle, vous êtes auteur du livre « Éteindre le soleil », c'est aux éditions Plomb. Merci à vous de nous avoir répondu, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, bravo pour votre livre qui est magnifique, où vous nous livrez beaucoup de choses, vous donnez beaucoup de vous-même. Et c'est déjà très bien écrit, et puis c'est un plaisir de vous lire et de... malgré tout, de lire cette belle histoire d'amour.
Merci à vous.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.